Bram FM, la radio, avec cette émission d'ici et d'ailleurs. Bonjour à vous, Lulu à l'antenne. C'est l'été, d'ici et d'ailleurs s'évade du studio Tulliste, sous le soleil de la haute vallée de la Dordogne, d'ici et d'ailleurs lève l'ancre à Spontour. Spontour sur la retenue du barrage du Chastan. Spontour, posé dans son terrier de silence, chapeauté d'ardoise, cet ancien village de Gabarier, cligne de l'œil aux hautes collines d'Abi Emeraude. Entre deux bras boisés de verdure rafraîchissante, la Dordogne nous convie pour une vadrouille en gabarre. La Dordogne, deux sœurs jumelles, la Dore et la Dogne, nées sur le massif volcanique de l'Auvergne voisine, ont eu la merveilleuse idée de s'embrasser en un destin commun pour s'en aller danser au grand bal océanique. De cascades en gorge profonde à la nonchalance des plaines aquitaines, la Dordogne nous invite à ouvrir le grand livre de son histoire. Sereine, déconcertante de beauté, quand le soir lave son obscur dans l'encaissement abrupt des séravins en ermite, cette rivière tire le rideau du grand théâtre des énigmes. Pour nous conter et nous initier aux secrets, histoires et anecdotes du riche passé de cette rivière, je suis invité par M. Chavan, qui est historien et qui était l'ancien pilote de cette gabarre. Bonjour M. Chavan.
Bonjour Lucien.
Merci de m'avoir invité, merci de nous accueillir avec le sourire et pour nous parler de ce riche passé de la Dordogne. Alors on va en parler ensemble avant d'aller plus loin. Donc cette émission va se dérouler en 2-3 temps. On va parler quelques mots sur la Dordogne, M. Chavan va nous en parler. On parlera aussi de cette gabarre sur laquelle on va naviguer tout à l'heure. Parler des gabariers aussi avec cette histoire, très très vieille histoire, et qui avec la richesse que ça a amené à cette région, des gens extraordinaires. Et après on finira cette émission, on fera un petit tour d'horizon sur l'aménagement hydroélectrique de la Dordogne, avec les barrages qui ont été faits dessus pendant des années 20 aux années fin des années 50 à peu près, je pense. Cette rivière, pourquoi une rivière et pourquoi pas un fleuve ?
Ah ben d'abord, la Dordogne, c'est un fleuve. Hein. Nous le disons fièrement, parce que la définition du fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans de l'eau salée. Donc on peut considérer que l'estuaire de la Gironde, c'est de l'eau salée. Donc la Dordogne est un fleuve. D'ailleurs, beaucoup de géographes autrefois parlaient d'un fleuve et non pas d'un affluent de la Garonne, parce que tout simplement, les deux se jettent au bec d'Ambès dans l'océan Atlantique via la Gironde. Donc on peut parler de fleuve. Parce que par le débit de cette rivière, un débit qui se situe autour annuellement de 150 mètres cubes secondes, il y a bien des fleuves qui ont moins en France.
Ah, oui.
Ensuite, par la longueur, hein, 499, donc 500 km, c'est quand même pas négligeable. On situe la Dordogne dans les 15 premiers fleuves français en termes de longueur.
Mais, le sixième, je crois.
C'est ça, alors oui, sixième, septième, mais pour nous, pour moi, c'est clairement un fleuve, parce que de par son histoire, par exemple, la Garonne a moins d'histoire fluviale que la Dordogne, déjà. Donc si on se place sur un plan géographique, on est dans les clous, c'est un fleuve, et sur un plan historique, on y est encore plus, puisque le passé de la Dordogne est certainement plus riche même que la Loire, qui est 1000 km de long, le plus long fleuve de France.
Mais donc vous me dites que la Garonne n'avait pas un passé de navigation comme la Dordogne. Alors, c'est original ça.
Oui, elle a un passé, bien sûr qu'elle a un passé assez similaire. Mais la richesse, entre guillemets, qui était transportée, l'histoire est beaucoup plus précoce. C'est-à-dire on a la preuve que les Romains utilisent la Dordogne, déjà. On a un témoignage écrit d'un transport d'un corps d'un évêque dans le Lot, à Crèce exactement, et donc au 5e siècle. Donc si on a déjà la trace d'amphores transportées par des bateaux, si on a une preuve écrite qu'un corps d'évêque est transporté en bateau à fond plat jusque dans le Lot, en provenance d'Argentat probablement, ça veut bien dire qu'on a un fleuve qui historiquement est marqué par la batellerie plus que la Garonne, puisque la Garonne, elle, a un passé certes similaire, mais à un passé peut-être moins dense en termes de quantité de bois, parce que tout simplement les régions traversées par la Dordogne étaient plus boisées que les régions traversées par la Garonne. Ça n'enlève rien à la Garonne.
Donc la Dordogne traverse 6 départements, c'est ça, hein?
Oui,
je pense le Puy-de-Dôme, le Cantal.
Le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et la Gironde, ça fait 6 départements. Donc autrefois c'était 3 régions, maintenant c'est plus que 2. Mais oui, c'est un fleuve.
Son bassin versant aussi comprend d'autres départements, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse,
le Lot-et-Garonne. La Creuse, non, mais
si,
le Sioulet,
le
Chavanon, pardon. Oui, le Chavanon. Oui, tout à fait. C'est un fleuve qui a, de par ses affluents, oui, un bassin versant de très grande taille, oui, tout à fait.
Cette rivière a été classée au patrimoine de l'UNESCO.
Tout à fait.
Alors,
mondial.
Vous allez nous en parler, M. Chaban. Ça a été porté, ce projet, par qui dans la région?
Bon, alors c'est un projet qui a été porté essentiellement par une association qui existe toujours, qui s'appelle Épidore. Qui était créé dans les années fin des années 90. J'ai assisté d'ailleurs à la première assemblée générale à Bergerac. Et donc oui, le but c'était de fédérer en fait toutes les structures politiques, administratives du bassin versant. Parce que le problème, comme ici à Spontour, c'est qu'on a la chance et la malchance d'être frontaliers.
Quand je parle frontalier. Oui, avec le Cantal.
Avec le Cantal et donc l'Auvergne, ce qui fait que les gens avaient pour habitude de cloisonner ce secteur comme un cul-de-sac, alors qu'en fait, pour nous, ça pouvait être un carrefour touristique. Donc, effectivement, Épidore a voulu décloisonner les limites administratives de régions qui se tournaient le dos, le Limousin, l'Auvergne, par exemple, sans se connaître vraiment, parce que les capitales sont loin, Clermont d'un côté, Limoges de l'autre. Alors aujourd'hui, c'est tous ces Lyon et Bordeaux, donc c'est encore plus éloigné. Mais pour moi, clairement, la Dordogne est un trait d'union et non pas une frontière. Donc Épidore a voulu créer cette espèce de trait d'union du Puy-de-Sancy jusqu'au bec d'Ambès sur 500 km. Donc l'initiative revient à Épidore, pour répondre à votre question.
Dans ce classement, est-ce que la valeur environnementale est vraiment prise en compte?
Oui, la Dordogne... C'est un des premiers éléments. Le classement Natura 2000... de la Dordogne, qui fut un des plus précoces en France, et c'est certainement lié à cette volonté de préservation de cet environnement extrêmement sauvage que nous allons découvrir. Parce qu'effectivement, vous avez un ruban d'eau et de forêt qui devient unique en France aujourd'hui, et qui est, on va le dire, jeune, si on considère que les barrages, c'est les années 50. C'est une forêt récente. Moi, j'avais l'habitude de dire, sur les gabarres, vous êtes dans l'Amazonie verte de France.
Une belle formule.
Oui, parce que c'est effectivement redevenu sauvage. En fait, sans trop dévoiler la suite sur l'histoire, mais nous sommes maintenant au cœur d'un patrimoine forestier unique, par sa diversité, de par la richesse des essences qui sont redevenues naturelles. Le barrage, pour moi, clairement, a été non pas un outil de destruction, mais un outil de préservation. Je dis ça parce que EDF a bien sûr été longtemps notre partenaire, mais parce que c'est aussi leur volonté, et que parce que c'est aussi pour nous la chance que l'on a de naviguer sur des eaux qui ne sont pas sauvages. Alors certes, ça dénature le côté historique, mais en même temps, les étiages de la Dordogne ne permettraient jamais de naviguer.
Tout à fait.
Vous voyez ce que je veux dire?
Par rapport à l'environnement... Comment voyez-vous le développement économique? Parce qu'il arrive de plus en plus de tourisme, ce qu'on appelle le tourisme vert. Quand on voit dans certaines communes touristiques en France, il y a un surplus de tourisme, ça crée des problèmes avec la population, souvent pour se garer ou autre, des problèmes aussi des déchets qui sont restés sur place. Comment peut-on concilier, si je peux me permettre, un tourisme qui soit... de qualité en tant que recherche historique et en même temps sans tomber dans l'outrance d'un surdéveloppement économique?
Nous avons eu, quand je dis nous, ce sont les fondateurs de ces gabarres en 1989, donc j'en suis le fondateur, mais je n'étais pas tout seul. Nous avons eu la conviction dès le départ que l'atout majeur, c'était... le fort niveau historique, je cherche mes mots, mais la tonalité historique était très forte. Elle avait été oubliée par les barrages, c'est vrai. Ça, c'est le défaut des barrages, d'avoir noyé les chantiers en particulier. Mais cette valeur historique était forte. Mais au-delà de ça, c'est la valeur environnementale, oui, qui est la plus forte. Je viens de voir passer là, à l'instant, un Milan noir au-dessus de nos têtes, Lucien.
Tout à fait, je l'ai vu tout à l'heure.
Milan noir, Milan royaux. Ce sont des oiseaux qui reviennent. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans cette Amazonie verte. Et effectivement, il y a un côté confidentiel. C'est un tourisme confidentiel. Mais la qualité de l'environnement, la qualité du discours historique et la modestie des prix sont des atouts pour l'avenir. Et là, je parle au-delà de la Gabarre, je parle de cette haute vallée de la Dordogne qui, à mon avis, a de beaux jours devant elle. Oui.
Donc, si je comprends bien, on arrive, quand on le veut, quand il y a la volonté, de concilier un tourisme qui soit respectueux de l'environnement, de manière que cette région soit encore vivable et qu'elle soit préservée. En gros, c'est ça.
C'est exactement ça. Ça résume tout à fait. Si on s'est, entre guillemets, embêté à faire autre chose qu'une caisse à lu à billets bois, puisque notre Gabarre est en chêne massif avec des couples en chêne, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait la rebâtir, on aurait bien des problèmes avec les agréments, hein, faut être bien clair.
Ah
mais
oui,
bien sûr, parce que la volonté aujourd'hui, c'est de faire, de standardiser, y compris la batellerie, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, nous avons toujours ici, depuis 1989,
Ça commence à dater.
Miser sur la vérité historique, c'est-à-dire on fait de la Gabarre, on ne fait pas du bateau, comme il peut se faire ailleurs, même si les chiffres d'entrée ne sont pas correspondants, mais la Rogajac et Spontour, on ne va pas comparer. Et ensuite, le discours qui doit être tenu à bord de la Gabarre a toujours été un discours de haute teneur et de haute valeur historique, de manière à ce que les gens apprennent quelque chose et ne viennent pas faire qu'un tour, même si le pilote peut blaguer, etc. Ça n'enlève rien au contenu. Et bien sûr, quand les gens vous disent en sortant « on a fait un voyage dans le temps et dans la nature », ben, c'est la meilleure récompense, parce que ça veut dire qu'on est en adéquation avec les projets de départ, qui est exactement ce que vous avez dit, Lucien, un tourisme de qualité dans un environnement de qualité. On a toujours misé la qualité sur la quantité. Alors certes, les chiffres ne sont pas mirifiques, parce qu'il y a un enclavement, parce qu'il faut venir ici spécialement. Ça, c'est le défaut que nous avons. Hein. C'est-à-dire, là, le pont est bloqué, et bien tout le côté Cantal ne peut pas descendre. Donc les chiffres baissent tous les ans, parce qu'il y a toujours des travaux, le pont qui est fermé. Et ça veut dire qu'on se prive d'une clientèle qui est de 40%, à peu près, si on veut parler comptabilité. Mais ça n'empêche pas que les élus locaux, et ici, nous sommes dépendants de Haute-Corrèze Communauté. Hein, on est pourtant en face d'Argentat, de l'Axentrie. Mais que ce soit de ce côté ou de ce côté-là, nos collègues d'Argentat ou ici, que ce soit donc les décisions prises à Argentat ou celles vont dans le même sens, il faut préserver cet environnement historique et naturel et protéger cette Gabarre. On a, croyez-moi, fait bien des réunions pour convaincre les élus pour arriver à ça quand même. Ça n'a pas été facile.
Mais pour arriver à préserver cet environnement, c'est peut-être le prix à payer qu'il n'y ait pas de surfréquentation, peut-être.
Alors, on aimerait un peu plus de fréquentation. Ça, soyons bien honnêtes et bien clairs. On aimerait un peu plus que 3000 entrées. Parce qu'il y a aussi des notions d'environnement économique, de rentabilité. Et le seuil de rentabilité, c'est 5000. Hein. Donc, on est encore loin. Donc, on aimerait un peu plus de tourisme. Attention, quand je dis on aimerait un peu plus de tourisme, c'est-à-dire un étalement. Parce qu'en fait, on a affaire à des pointes en août. Et il va y avoir des pointes entre le 1er et le 16 août. Et on va refuser du monde. Et au mois d'octobre ou au mois de septembre, on aimerait avoir un peu plus de groupes. En fait, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est développer des produits touristiques comme nous avions fait et j'avais fait dans les années 90. Mais il fallait un restaurateur. Et nous avions la chance d'avoir Altero Betti, si on pourrait en dire un mot. Et lui, Altero, avait compris, bien avant tout le monde, le sens de l'histoire. Il en avait fait son dada dans son triolet, qui est repris par sa petite fille d'ailleurs. Hein, mais
triolet qui est un bar-restaurant.
Qui est un bar-restaurant aujourd'hui de qualité, hein, je tiens à le dire, mené par Mélodie Rongier, la petite fille d'Altero Betti. Mais il faut arriver, parce que Mélodie a elle travaille un peu seule, il faudrait arriver avec un groupe, un restaurant plus grand, 200, 250 couverts. Et là, on aurait des groupes, des bus. Ça veut dire aussi qu'il faudrait une gabarre peut-être un peu plus grande ou avoir plus de rotation. Mais l'idée du développement, parce qu'on en est là, c'est pas la surfréquentation qui nous menace, c'est l'inverse. Ouais. Donc pour arriver à maintenir l'activité, ici, il faut véritablement multiplier les produits. Parce que la qualité du discours, la qualité du bateau et la qualité environnementale, nous l'avons. Il nous manque juste ce que d'autres ont plus facilement, c'est-à-dire l'accueil de groupe.
Monsieur Chavant, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on parle de cette haute vallée de la Dordogne, notamment Spontour, je connais plein de tulistes, de gens de la région, qui ne connaissent pas du tout, qui sont partis en vacances au Vietnam, ou je cite le Vietnam ou d'autres, les Canaries, les États-Unis. En fait, ces gens-là, ils vont chercher une évasion, alors peut-être qu'ils l'ont près de chez eux. Je fais un raccourci.
L'herbe est toujours plus verte ailleurs, et ailleurs c'est meilleur. Enfin, c'est des formules lambda, mais c'est des formules qui malheureusement s'adaptent à ici. Cordonnier le plus mal chaussé. Mais oui, oui, les gens vont chercher ailleurs ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas trouver à côté. Pour autant qu'ils connaissent maintenant les gabarres et Spontour, et votre émission va certainement aider à faire venir des gens. Mais c'est vrai que à Brive, à Tulle, on a eu des surprises de gens qui nous disent « Ah, les gabarres, oui, Beaulieu, au mieux, Beaulieu, oui. » Alors qu'en fait, le site le plus sauvage et le plus intéressant, alors on prêche toujours pour sa paroisse, mais 12 km de long, et pas 4 km comme à Beaulieu, 1h30 et pas 1h15. Et puis, surtout, des gorges, vraiment des gorges encaissées, on remonte un peu la Luzège, selon le niveau d'eau. C'est-à-dire, en fait, on voit des sites très remarquables en termes d'encaissement aussi, hein, de géologie, d'encaissement. Ça compte aussi, ça.
La Luzège, qui est un affluent de la Dordogne.
Oui, hein, voilà. Oui, 52 km de long. Elle vient du plateau de Millevaches, là, au-dessus du Mont-Bessou.
Qui passe sous les ruines du château de Ventadour, c'est ça?
Exactement. C'est le confluent avec la petite Luzège au pied du château. Elle passe sous le viaduc des Rochers Noirs, qui est aujourd'hui en cours de restauration. Elle passe à l'aval sur Luzège, qui est quand même un très beau bourg avec une église romane, 12e siècle. Enfin, oui, il y a un potentiel énorme ici.
Bon. On va se faire une petite coupure musicale et on reprend.
Avec plaisir.
Ils sont partis pour des voyages auxquels nous n'étions point conviés. Où sont-ils, en quel paysage ont-ils délacé leurs souliers? Ont-ils déposé leurs bagages à l'orée des grandes forêts? Ont-ils découvert les mirages pour lesquels ils nous ont quittés? Ont-ils mené leurs équipages par la caresse ou par le fouet? Sont-ils morts en quelque naufrage, fracassés contre des rochers? Sont-ils rois de contrées sauvages, protégés par des chiens guerriers? Ont-ils barbouillé leur visage pour cacher qu'ils nous ressemblaient? Ont-ils érigé des barrages, pierre par pierre, pavé par pavé? Ont-ils séché des marécages pour y planter leurs oliviers? Ont-ils conquis par le carnage la terre qu'ils voulaient défricher? Ou sont-ils devenus plus sages à tant trimer, à tant suer? Ont-ils été brûlés Carthage pour s'enivrer de ses fumées? Ont-ils épuisé leur courage? Furent-ils de ceux qui renonçaient? sont-ils rentrés dans leur village, le cœur écorché de regrets, déchirer la dernière page du livre des aventuriers. Dans leur village, le cœur écorché de regrets, déchirer la dernière page du livre des aventuriers.
Alors, donc, avant de parler des gabariers, votre gabarre, vous l'avez construite, vous me dites en 89, c'est ça ?
Alors, celle-là a été construite plus tard, hein, celle-là, parce qu'il y a eu des générations de gabarres, touristiques je parle. Hein. Je vais quand même dire un mot sur le fabricant, parce que c'était l'entreprise Lefort et Bracelli, à Saint-Pantaléon-de-Laplau. Donc, ce sont bien des producteurs locaux hein, qu'on a recrutés et qui nous ont accompagnés à Douarnenez, à La Rochelle, dans tous les ports où se fabriquaient des bateaux. D'ailleurs, inutilement, parce que personne ne nous disait « on sait faire une gabarre ». Donc, il a fallu la faire. Et Michel Lefort, en particulier, est à l'initiative technique. C'est très important de le signaler parce qu'il est encore dans l'association, il est encore avec nous. Et malgré son âge avancé, il reste un très bon charpentier. Et c'est lui qui a véritablement assemblé les 6 gabarres qui ont été faites dans son atelier. Parce qu'au total, il y a eu 6 gabarres touristiques. Celle-ci, c'est la plus récente.
C'est un métier que fabriquer un bateau, c'est pas faire une charpente de maison ni d'autre.
Ah ben non, 13,50 m de long, 3,50 m de large, 3,5 tonnes de chêne et de mélèze. On ne trouve même pas ça, je pense, sur certains chantiers en marin, quoi, en bord de mer.
Oui. Vous me citez des essences de bois. Les gabarres, à l'époque des gabariers, étaient faites avec les mêmes essences de bois ou...
Pas du tout. Enfin, pas du tout. La gabarre, c'est une caisse d'emballage. C'est-à-dire, c'est un objet qui dure une semaine. Elle est détruite à l'arrivée. Donc, partant de ce... Même aujourd'hui, vous ne mettez pas une qualité d'essence, ni une qualité technique, pour quelque chose qui a une durée de vie très courte. À l'inverse des bateaux de moyenne et de basse Dordogne, parce qu'on peut en parler, mais on prendrait des heures, les courpés ou les gabarots de basse et de moyenne Dordogne, eux, étaient faits pour durer. C'est-à-dire qu'ils remontaient, soit avec des voiles, soit par halage. Mais dans la mesure où nos gabarres, qu'on appelait des courpés, hein, je tiens bien à dire, c'est le oui. Gabarre, c'est le terme générique pour toute la valade.
Courpé, ça veut dire quoi, ça ?
Courpé, ben, courpé c'est le mot.
C'est un mot très ancien.
Très ancien. Donc l'origine, difficile à trouver. Mais ce qui est certain, c'est que les courpés, eux, avaient une durée de vie courte. Donc c'était des caisses d'emballage. Donc on calfatait à la mousse. Pour vous dire, rien d'autre, mousse séchée. Le corps, c'est-à-dire, était fait en chêne. Voilà, ça, le chêne, bien sûr, parce qu'il fallait résister au choc des malpas. Il y avait plus de 50 malpas jusqu'à Libourne. Les malpas, c'est des mauvais passages. Hein. Il en reste 2 aujourd'hui vers Argentat-Beaulieu. Mais il y en avait beaucoup plus en montant. Là, il y en a juste à 500 mètres d'ici. Par contre, tout le reste, c'était du tout venant, du bouleau, du châtaignier, tout ce qu'on trouvait, des planches. L'eau rentrait en permanence, il fallait tout le temps écoper, avec les spoujadours. Ouais. Donc il y avait un apprenti qui était là pour écoper, quoi.
Ce bois qui est des gabarres arrivait à destination, en destination c'était Libourne à peu près le dernier.
Alors il y avait plusieurs destinations, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, ça va être dit tout à l'heure, mais la destination majeure c'était le Argentat d'ailleurs, hein. C'était déjà une première destination puisque c'était là que se faisait l'embarquement majeur. Ici on partait avec des demi-charges. Parce que entre Spontoire et Argenta, si vous voulez, la navigation était vraiment compliquée parce qu'il y avait des malpas comme le fameux, je cherche son nom, le Padel Race par exemple, ou le Val d'Enfer au Chambon. C'était des niveaux, aujourd'hui en canoë-kayak, c'est de la classe 2, c'est-à-dire c'est sportif quoi. Alors les mecs, ils partaient sans gilet de sauvetage et rien. Donc Argenta, déjà, ils prenaient pleine charge et ils commençaient à décharger, alors Souillac peut-être pas vraiment, mais...
Bergerac,
oui. Mmh. Pour l'essentiel, c'est Bergerac qu'on décharge, parce que déjà là, il y a tous les tonneliers qui... Saint-Caprès, Bergerac, Trémola, il y a des ports partout, il y a des ports tous les 2-3 kilomètres. C'est une autoroute, une Dordogne. C'est une autoroute avec des stations de péage, avec des restaurants. Comme pour le meilleur comparatif, c'est ça. C'est une autoroute avec des endroits pour s'arrêter.
Il y avait des stations de péage, ah oui.
Oui, à Argenta, on paye une taxe pour la grande maison avec une tour. C'était là où la taxe d'enregistrement se faisait. Bien sûr, il y a un impôt à prélever. Comme aujourd'hui, il y a des péages. C'était l'État ou les collectivités qui prélevaient. Mais on payait l'impôt. On a toujours payé l'impôt. Donc, on payait l'impôt pour pouvoir, parce que c'était le transport unique aussi, il n'y avait pas d'autres moyens de transport, faut être bien clair. On parle d'une période qui part du Moyen-Âge jusqu'aux années 1880, où les premiers trains n'arrivent même pas ici d'ailleurs, hein, il faut bien préciser, on partira si vous voulez sur la fin des gabarres, mais
bien sûr,
parce que moi je peux vous en parler longtemps, mais pour en revenir à ce que je vous disais, les pleines charges, c'est pas Spontour. Spontour, c'est le port de fabrication et c'est le port de départ. Argenta, c'est le port d'embarquement.
C'est pour ça, c'est vrai qu'on les appelait, en arrivant même sur Bergerac ou Libourne, des gens de la région qui naviguaient, on les appelait les Argentas.
Oui. Oui, parce que pour Argenta, il était beaucoup plus important en termes d'habitants que Spontour. Mmh. Spontour, il y avait 400 habitants. Argenta, il y en avait 3 à 4000. C'est de l'ordre de 1 à 10, la différence, donc forcément. Mais pour en revenir à votre question de départ, parce que c'est celle-là qui m'a intéressé au départ. Oui, c'est une caisse d'emballage, la gare. Elle est détruite, mais attention, recyclée. C'est-à-dire que la gabarre transformée en boîte de chauffage. Le bois, le chêne, il est sec.
Ouais.
Il est sec, il a été fait l'année d'avant. C'est pas la semaine de descente ou les 5 jours de descente qui vont mouiller.
Excusez-moi, il y a une voiture qui passe à côté. On va entendre un bruit de fond. Monsieur Chavard, on va continuer. Cette gabarre, ça s'arrête, les gabarriers. En quelle année à peu près?
Alors, il n'y a pas une année. C'est pas une mort. C'est une mort lente. D'accord ? Une mort lente.
Avec le chemin de fer, ce que vous disiez
tout à l'heure ? Non. Une mort lente, c'est plusieurs causes. Parce qu'une seule, c'est trop facile. Et quand on veut être précis, on peut dire qu'elle était condamnée. Mais pas par d'autres moyens de transport. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle a été condamnée par quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est la surexploitation du bois.
Ah,
il faut savoir qu'en 1903, vous avez la Corrèze, c'est 3% de forêt.
Tout à fait.
Donc 3%, ici, il n'y a plus de bois. Parce que vous avez une exploitation permanente des gorges. Il faut imaginer des gorges sans végétation.
Oui, parce que l'enjeu du bois était
énorme.
Énorme.
C'est le pétrole de l'époque. On s'en sert pour tout, pour la charpente, pour la construction, pour le chauffage, pour la tonnellerie. On s'en sert pour tout. Donc c'est pour ça que les gabarriers, il faut pas avoir une vision cataclysmique et socialement défavorisée. Les gabarriers vivent bien, Lucien. Ils vivent très bien. Vous n'avez qu'à voir les maisons de Spontour et les maisons d'Argenta pour comprendre qu'on n'est pas chez les misérables. C'est le contraire. Alors attention, soyons bien clairs. On peut mourir très jeune, de noyade, d'accident. On peut même, parfois, si l'hiver n'a pas été neigeux dans l'Auvergne, pas d'eau, pas d'argent. Oui, la disette, ça a pu exister, j'y étais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, c'était, sans être des privilégiés, des gens qui avaient quand même des compétences. Et je préfère ce mot-là, au mot privilège. Ils avaient des compétences de navigateurs que personne n'avait. Ils avaient une connaissance de leur Dordogne, qui est l'équivalent d'un GPS aujourd'hui, ajouté à un sonar dans la tête, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Et le taux d'accident était faible.
Ah oui.
Mortel, faible. J'en ai la preuve. Il aurait fallu que je révise, mais je crois qu'il y a eu 7 morts sur une dizaine d'années. C'est rien si on compare ça à la route.
Monsieur Chavan, j'ai trouvé sur une revue un chroniqueur du début du 19e qui dit ceci. En amont de Spontour, naviguer tient de la prouesse.
En amont, tout à fait. Ah oui, en amont de Spontour, là, on est sur du torrent. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des chantiers de navigation. Attention, on a des chantiers à l'anneau. L'anneau, c'est à côté d'Arche. Alors, Arche, c'est vers Bord-les-Orgues.
Oui, beaucoup plus haut.
Oui, c'est beaucoup plus haut. On a des ports de flottage de bois à Laval-sur-Luzège, à Saint-Pantaléon-de-Laplau, à Bord-les-Orgues. On en a sur la Rue, on en a sur l'Oze, on en a sur la Maronne, on en a sur la Serre, on en a sur le Doustre. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, non pas simplement un spontour isolé au milieu de nulle part, mais au contraire, un environnement de flottage de bois, je dis bien de flottage de bois, avec des types qui partent avec des rondins de bois attachés par des chaînes, des cordes, qui descendent de bord, en fait, pas de bord, mais du confluent Rue d'Ordogne, parce que là, bien en amont de Spontour, hein, de la ville de Bord. Oui. Et là, il faut imaginer ces gars qui partent avec une, comme au Canada, qui partent autrefois, qui partent sur leur rondin de bois et qui arrivent à Spontour, pour qu'ensuite ce bois soit exploitable. 400 gabarres par an, Lucien. 400 gabarres sur Spontour. 12 chantiers de construction. 12.
Alors,
qui dit mieux ? Qui dit mieux ?
Chavan, sur la revue que je vous citais tout à l'heure, j'ai vu que en zone de montagne, c'était le premier port de fabrication de gabarres en France.
Mais c'est vrai.
En France.
Je confirme à 200%, c'est le premier port de fabrication fluviale en montagne française. Oui, largement devant les Alpes. Parce que les Alpes sont largement déboisées et trop en altitude pour avoir des forêts. Ici, on est dans un espace, un étage climatique intéressant, puisque, à part l'extrême sommet du Pumari ou du Puy-de-Sancy, du bois, vous en avez partout, jusqu'à 1200, 1300, 1400 mètres d'altitude. Donc, la couverture forestière était beaucoup plus dense, l'espace exploitable était plus dense. Autrement dit, naturellement, notre région était formidablement bien dotée, oui, bien mieux que d'autres régions.
Oui, ce flottage du bois, donc il descendait, si je vous suis bien, de la très haute Dordogne jusqu'à à peu près
Spontour.
Oui. Et de Spontour, ce bois était travaillé, était mis sur des gabarres.
Exactement. Stocké sur des quais d'embarquement, tout simplement, des aires de stockage. On en galets, hein, c'est très modeste, il ne faut pas imaginer des trucs pharaoniques. Oui. Hein, c'est des galets, un terre-plein avec des galets. 12 chantiers, je le répète, 12 chantiers.
400 gabarres, c'est énorme.
400 plus même. On a eu, le record, c'est 453 sous le Troisième Empire. La date exacte, je ne l'ai plus, mais c'est sous le Troisième Empire.
Alors,
L'apogée.
Sur cette revue, j'ai lu, vous allez me le confirmer, Louis XVI donne aux marins d'intérieur, est-ce vrai ?
Oui.
Les gabarits avaient droit à une
petite retraite. Une petite pension, oui.
Niveau fiscal aussi, ils avaient un petit avantage.
Ils avaient des avantages, oui. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir une vision misérabiliste de ces gens-là, parce que tout simplement, il y avait des avantages liés à la nature dangereuse.
Ouais.
Quand même, il faut le reconnaître, parce que prendre la Dordogne au mois de janvier ou de mars, c'est pas une balade touristique, hein, c'est véritablement faire une descente dangereuse. Je vous donne un exemple. En 95, avec l'équipe de rugby de Mauriac, on est parti du pied du barrage de l'Aigle jusqu'à Spontour, avec un niveau d'eau très bas, mais une Dordogne à 500 mètres cubes seconde. 150 mètres cubes seconde, pardon. 150 mètres cubes seconde. Au bout de 300 mètres, j'ai remué le moteur. Tout le monde avait la trouille. Moi, le premier.
C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que ce besoin de développement économique, de faire lien aussi, parce qu'au-delà de l'apport économique, les gabarits apportaient autre chose aussi. Il y avait des relations sociales avec un autre territoire. Il ramenait des informations, ce qui certainement était important aussi pour les gens du pays qui restaient.
Bien sûr. Alors, ils ramenaient bien sûr de l'argent, ça c'est clair. Donc, ils investissaient ici, dans les maisons, dans leurs chantiers. Parce qu'il y avait quand même. Il y avait quand même que 3 propriétaires de chantiers.
Mais 3 propriétaires.
Chanfeuille était le plus gros. Chanfeuille, historiquement. Mais oui, ils parlent anglais, certains, parce qu'ils étaient en contact avec des négociants sur Libourne et puis Bordeaux, avec des Anglais. Donc certains parlaient anglais. Et puis ils ont ramené le protestantisme dans la région. C'est, ils ramenaient des idées nouvelles. Tout à fait. Ils étaient finalement éclairés.
Oui.
Parce qu'ils ne restaient pas toute leur vie sur 10 kilomètres de...
Le développement n'était pas qu'économique, il était philosophique et culturel.
On peut dire ça. Oui, ils amenaient autre chose, c'est une évidence. Et c'est ce qui a fait certainement que cette histoire nous a accrochés. Parce que ce n'est pas que transporter du bois. Évidemment que non. C'est aussi quelque chose qui ressemble à quelque chose de civilisationnel quelque part. Oui, oui, oui.
C'est une belle formule.
Je ne sais pas, mais en tout cas, nous y avons cru à ça.
Mais bien sûr, je comprends. Par rapport à la dévorosité, j'ai trouvé sur cette revue, sur des papiers de la vicomté de Turenne, en janvier 1773, pour relater la dangerosité de la descente en Gabarre. 1773, voilà. Donc ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure.
Ah ben ils appellent ça des malpas. Des malpas, il y en a partout. Alors certains ont été aménagés. Par exemple au Chambon, je cherche son nom, le Pac, c'était le Roc d'Enfer, mais je pense qu'il y avait un autre nom. Il a été aménagé sous Napoléon Ier. Oui, ça date. Donc ça veut dire qu'au plus haut niveau de l'État, on avait conscience de l'intérêt de cette navigation, parce que c'était de l'exportation de vin dont il s'agissait après aussi. Hein. Il faut bien voir qu'en fait, nous sommes une filière de matières premières, d'une filière de tonnellerie et de viticulture. Si vous enlevez le bois, vous n'avez plus de filière de tonnellerie et vous n'avez plus de filière viticole, soyons bien clairs.
Oui, parce que la vigne devient exportable, je crois, en 1200, c'est 13e siècle.
Très vite, bien sûr. Et c'est les abbayes qui sont les premières intéressées.
Oui,
c'est souvent le clergé qui, fait partie des élites de l'époque.
Comme pour le sel.
Voilà, comme pour le sel. Donc posséder effectivement la possibilité d'avoir des vignes, c'était essentiel pour le clergé, mais pas simplement pour le vin de messe. Hein. Soyons bien clairs. C'était aussi pour avoir des recettes. Et évidemment, on peut dire que l'aménagement qui a été fait de cette Dordogne, sous Louis XVI, sous Napoléon Ier, pour ne citer que sur la Haute-Vallée, montre qu'au plus haut niveau de l'État, on avait un œil attentif à ce qui se faisait ici. Autrement dit, ce n'est pas une économie fermée, isolée, c'est une économie déjà globale, globalisée, mondialisée quelque part, enfin, à petite échelle. Mais ça veut dire que la batellerie, c'est une autoroute. La Dordogne est une autoroute.
Votre formule est très belle. De par le... Donc j'ai lu aussi sur cette revue, avec le relais de la Gironde, donc le fleuve qui arrive sur la mer et l'océan, des bois d'Argentat remontés jusqu'à La Rochelle, l'île d'Oléron. Donc, en fait, des beaucoup plus importants qu'on peut le penser.
Oui, bien sûr. Et puis, il faut que vous
sachiez... Et Rochefort aussi.
Ouais. Alors, Rochefort, je ne le sais pas, ça, Rochefort.
Mais je
vous fais confiance pour ça. Ce que je sais, c'est que le pouvoir tannique du chêne de Haute-Dordogne était bien supérieur à d'autres chênes. Ce qui faisait que la conservation des vins se faisait dans de bien meilleures conditions. Et ça nous a été rapporté par des historiens et des vignerons de la région de Libourne. C'est eux. Pour eux, c'était le chêne de Dordogne, parce qu'il avait des vertus de conservation du vin, et en même temps, il était aussi il était doté d'une sorte de termite, etc., comme si vous passiez du xylophène quelque part. Donc la conservation des tonneaux était aussi l'exigence, mais évidemment. Donc tout le monde était gagnant-gagnant avec cette batellerie.
Le côté tannique des châtaigniers, certainement, vient du sol aussi.
Ça vient du sol, bien sûr, ça vient de nos sols qui sont relativement acides, et puis ça vient de cette connaissance empirique de ces gens, pour en revenir à eux. Ils avaient des connaissances empiriques, ils étaient dans l'eau à 7-8 ans, ils savaient nager.
Par l'observation. On va se faire une autre coupure musicale et on se retrouve dans 4 minutes.
Magalam tasamodga, magalam tasamodga, utsha prina.
veli, utsko prina veli, tetriptiani, tetriptian. Ori dili 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 dela, gogom pichki chakara da ou dela dela. Ori dili 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 dela, gogom pichki chakara da ou dela dela. Gogom pichki chakara da tone abriala, gogom pichki chakara da tone abriala. Morcha sakme samgera khmebi chastriala, morcha sakme samgera khmebi chastriala. Tashi bosho kukana olama zoda sukana, tashi bosho kukana olama zoda sukana.
On se retrouve avec M. Chavant pour nous conter encore cette histoire des gabariers, cette grande histoire des gabariers. M. Chavant, vous parliez tout à l'heure de ce commerce du bois. Les gabarres, elles transportent. Donc, en gros, elles transportent quoi exactement?
Alors, on n'a pas de statistiques sur le pourcentage, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a une grande polyvalence. Ce n'est pas uniquement du bois. Ça peut surprendre. Le bois, c'est la majorité des produits transportés, donc chêne et châtaignier, carassonne et mérin. Mérin, c'est le chêne. Carachouna, c'est les piquets de châtaignier.
Les piquets de châtaignier. Voilà, qui servaient pour la vigne.
Qui servent de tuteur pour les ceps de vigne, tout à fait. Ou qui pouvaient servir également de clôture. D'ailleurs, il y a un grand commerce de clôture, hein, ne l'oublions pas. C'est pas que le tuteur de ceps de vigne. Quant au mérin, ben lui, évidemment, c'est la tonnellerie. Mais, par exemple, c'est comme une filière, si vous voulez. Quand une filière se met en place, elle se diversifie au bout d'un moment. Et du coup, on s'est aperçu que, par exemple, les fromagers du Cantal pouvaient être un débouché naturel. Donc, on a des preuves que, à dos de mulets, à dos de ce que vous, de chevaux, des charrettes de Cantal arrivent à Spontour ou en amont. Alors à Spontour, évidemment, parce que et évidemment, comme on part l'hiver, il n'y a pas de problème de conservation du fromage.
Eh oui, tout à fait.
Donc le fromage est une part non négligeable à Spontour par Argentat, mais à Spontour dans les soutes, par exemple. Autre chose, les cuirs épaux de Bord-les-Orgues. On en a la trace. Et ces cuirs épaux, ils arrivent.
On en a la trace.
Bien sûr. Tout simplement, c'est le débouché naturel des cuirs épaux, des tanneurs.
Des châtaignes aussi, non?
Des châtaignes et du charbon.
Et du charbon.
Alors, charbon, deux provenances, on va y aller. La première provenance, c'est Champagnac-les-Mines.
Dans le Cantal,
Saint-Chamand, Argentat.
Ah oui, Saint-Chamand, donc, à côté de l'Argentat.
Oui, le Laurent, les mines du Laurent. Et évidemment, c'est un débouché naturel, parce que tout simplement, la gabarre peut porter jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes. Donc, quand on réfléchit bien, c'est un fond plat. Donc, si vous voulez, l'enfoncement. S'il y avait une quille, vous enfonceriez beaucoup plus. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous enfoncez peu. Inconvénient, vous faites comme ça. C'est-à-dire, vous avez du mal à maîtriser un tel bateau. C'est pour ça qu'on a eu la trouille, je vous le dis, quand on s'est mis à 15, un rugbyman, on ne maîtrisait plus rien, parce qu'il fallait une dextérité. Et de toute façon, il fallait des années avant d'être maître gabarit, avant de passer au pilotage.
Bon, on va lever l'ancre, c'est le cas de le dire, pour cette balade, et on se retrouve sur la gabarre. Nous avons levé l'ancre et nous donnons un peu de la puissance à la gabarre. On remonte le lac sur le haut de ce pontour pour redescendre après plus bas en aval, et on découvrira cette haute vallée de la Dordogne tellement mystérieuse et empreinte de beauté, où la nature est relativement préservée. Et avec beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup de rapaces sur cette région. Nous avons des circaètes Jean Leblanc, des aigles beauté, nous avons toute la série des buses. Donc c'est une région qui est vraiment à visiter. Personnellement, je vous invite à venir ici découvrir ce merveilleux paysage, cette histoire riche en vie humaine aussi, hein. Ce que nous disait tout à l'heure Monsieur Chaban sur les gabariers, c'est une très très longue histoire qui date à peu près du Moyen-Âge, même peut-être avant, le flottage des bois sur la Dordogne, et après les gabariers, les risques qu'ils prenaient. C'est une région qui s'est enrichie grâce au commerce avec l'Aquitaine, la Basse-Aquitaine, et avec la vigne qui s'est développée au XIIIe siècle, le commerce de la vigne. Voilà, on se retrouve tout à l'heure avec encore Monsieur Chaban, et je donnerai le micro à des passagers aussi. Merci. On retrouve Monsieur Chaban sur la gabarre, et nous sommes en flottaison, on remonte sur le haut de ce pontour, et je pense qu'on fera demi-tour pour descendre après en aval, comme je le disais tout à l'heure. Monsieur Chaban, tout à l'heure, on me parlait du transport sur ces gabarres. Donc, vous me disiez le bois pour faire les piquets, pour la vigne, pour les tonneaux, du fromage aussi, des châtaignes. On connaît le tonnage, le charbon, on connaît le tonnage que ça représentait sur une année.
Alors, il n'y a pas de statistiques précises à l'époque, hein, je vous l'ai déjà dit, parce que l'INSEE n'existe pas et c'est purement empirique. Hein. Donc, comme ça vous a été dit, 12 chantiers, une production annuelle moyenne de 300-350 gabarres avec des pointes à plus de 400. Ce que l'on sait, c'est qu'on pouvait transporter une quinzaine, une vingtaine de tonnes sur par gabarre. Donc, il faut une petite multiplication par 300, ça fait dans les 600-700 tonnes par an, si on fait ce petit calcul tout simple.
Oui, on longe une ancienne abbaye qui a été une grosse partie noyée par les eaux. Il reste un bâtiment encore qui est debout sur le bord de la retenue du barrage. Dans cette abbaye, de temps en temps, était venue Coco Chanel quand elle était dans sa jeunesse à Aubazine. C'est une information que je vous donne, Coco Chanel. Monsieur Chaban, les gabariers donc, qui remontaient à pied... Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de remonter avec des bouviers ou des attelages de...
Non. Non, parce que tout simplement, il y a une forme d'habitude et de... Comment dirais-je ? De rituel. C'est-à-dire, on descend en bateau, on vend la gabarre et on remonte à pied, et on remonte avec l'argent de la vente. Et on ne dépense pas cet argent autrement qu'en mangeant. Donc, non, il ne remonte pas parce que tout simplement, le coût aurait été exorbitant. Et puis, de toute façon, personne ne louait des chevaux comme ça pour faire 400 km. Hein, c'est pas possible. On louait des chevaux pour faire des travaux ou pour éventuellement les grands propriétaires pour leur usage personnel. Mais pour autant d'hommes que ça, c'était pas possible. Donc, en fait, c'était un système de rotation. Quand une équipe était sur l'eau, une deuxième se préparait.
Se préparait
à descendre, forcément. Comme on vous l'avait dit, il y avait 400 à 500 personnes. Donc, au rythme de 10-12 gabarres en convoi, avec entre 4 et 6 personnes à bord, on arrive à avoir un système de rotation. Tout
c'était
simplement.
C'était 4 à 6 personnes à bord.
Oui, oui.
Le, Vous me disiez tout à l'heure combien de jours pour descendre jusqu'à Libourne ?
Alors, bien sûr, ça dépend du niveau d'eau, des conditions météo, mais globalement, moins d'une semaine. Moins d'une semaine.
Avec... Donc, ils ne faisaient pas d'arrêt pour descendre ?
Ah si, ils font des arrêts. La nuit, on ne navigue jamais. Hein.
Ah oui.
La nuit, on ne navigue jamais. Donc, il fait nuit tôt. Donc, il faut arriver assez tôt. Alors, les étapes, c'est souvent Argentat, la première. Ensuite, c'est souvent Souillac, la deuxième étape. Après, Sainte-Foy-la-Grande, Bergerac et Libourne, terminus. Donc, on arrive bien à 4 nuits, voire 5 nuits.
Mais pour remonter à pied, combien de temps ?
Alors là, c'est 3-4 semaines.
Donc, ça veut dire que sur une saison où la Dordogne était navigable...
On fait deux voyages.
Le même groupe, il fait deux voyages maximum.
On peut arriver à deux voyages maximum.
Donc c'est pour ça qu'il fallait beaucoup d'équipage.
Faut beaucoup de personnel.
Tout à fait, merci. On se retrouve toujours sur la Gabarre. Alors, je vais donner la parole à quelques personnes qui sont sur cette Gabarre, des touristes. Bonjour monsieur, dame. Vous appelez ?
Monsieur Leproux. Enfin, Daniel et Roselyne, on va dire. Hein.
Ouais. Daniel et Roselyne, vous venez de quelle région, sans indiscrétion ?
Du pays de la Loire, donc de la Sarthe, notamment.
Ouais. Qu'est-ce qui vous amène en Corrèze ?
Ah ben écoutez, parce que nous avons des amis qui habitent à Bord-les-Orgues, et c'est eux qui nous ont invités pour découvrir la région. Voilà, tout simplement.
Vous n'étiez jamais venu avant ?
Pas du tout. Vous voyez, c'est une première, et franchement, nous sommes très satisfaits.
Voilà. Vous faites un tourisme vert, non ? Ou oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le tourisme ? Apprendre l'histoire locale ?
Nous, on fait beaucoup de vélo justement sur les pistes vertes, car on adore la nature. Et ben, nous sommes des gens aussi qui allons aux champignons. Voilà, tout simplement. Hein.
Vous connaissiez l'histoire de cette région, de la Dordogne et de l'Axentrie, cette région de la Corrèze ? Non, pas du tout.
Donc, nous l'apprenons aujourd'hui, voilà.
Hein. Donc, vous avez un grand fleuve chez vous ?
Oui,
même, il y a certaines similitudes, mais il y a plein de différences aussi. Elle n'était pas navigable de la même manière.
Ouais.
Donc vous rentrerez au pays avec des histoires à raconter, peut-être.
Ah, exactement, oui. Ce sera un souvenir inoubliable.
Merci à vous. Je suis à côté d'une passagère. Je vais lui laisser le micro quelques secondes. J'entendais cette dame qui disait qu'elle avait été en vacances en Norvège et par certains aspects, ça lui faisait repenser justement à la Norvège, ces gorges de la Dordogne. Bonjour madame, vous appelez ?
Bonjour, je suis Marie. Effectivement, il y a certains des paysages qui me rappellent les fjords norvégiens. L'encaissement, la hauteur des collines et puis tous les arbres des forêts qui nous environnent. C'est très agréable d'une part et très reposant. Donc c'est vrai que c'est une très belle balade à faire et ça permet de s'évader tout en restant dans nos contrées et sans avoir besoin d'aller très très loin.
Pour vous, c'est une évasion.
Oui, tout à fait. Absolument.
On parlait tout à l'heure avec M. Chavant, là, l'historien, du tourisme, l'évolution du tourisme. Qu'est-ce que vous en pensez du tourisme de notre région ? Est-ce qu'on doit orienter un tourisme encore un peu plus de masse ou on doit garder ce tourisme de qualité avec peut-être limiter, pas interdire bien sûr, mais de manière à préserver cet environnement ?
Absolument. Je suis contre le tourisme de masse. Donc ici, on est dans un endroit exceptionnel, tant par la beauté du paysage que par l'histoire aussi, à savoir que l'histoire de la Dordogne a fait vivre des milliers de gens, leur a donné du travail, leur a donné aussi à manger. Et on doit préserver ce patrimoine qui est quelque chose d'extraordinaire et qu'on doit transmettre aux générations à venir. Il faut absolument le garder tel quel. Peut-être le cultiver un petit peu plus, mais ne pas faire quelque chose d'hyper touristique. Il faut le garder comme il est actuellement dans cet état et surtout préserver cette nature et ce fleuve qui a une histoire extraordinaire.
Merci à vous. Je me retrouve avec M. Chavant. Cette remontée qui durait assez longtemps, est-ce qu'il n'y avait pas un risque pour ces gabariers qui remontaient avec l'argent de la vente du bateau et de leurs marchandises de se faire détrousser ?
Alors je vais vous dire une chose, les risques ont toujours existé, hein, mais les risques étaient peu important. Parce que tout simplement, un convoi du 10-12 gabarits, c'est 60 personnes. Est-ce qu'on attaque 60 personnes?
Et surtout que ce n'était pas des manchots, certainement. Ce
n'est pas des manchots, c'est des types qui sont peut-être pas des armoires à glace, mais c'était quand même des types assez virils. Et franchement, il ne fallait pas trop aller le chercher. Donc, il y avait possibilité, bien sûr, de se détrousser, mais les risques étaient plus d'affrontement avec d'autres utilisateurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment les pêcheurs professionnels, voire d'autres bateliers de basse ou de moyenne Dordogne pour des questions d'ego ou des questions de tout simplement de statut quelque part, de statut social. Mais bon, les détroussements ou les bandits de grand chemin, c'est une autre histoire. Ça n'existe quasiment pas. Je vais vous dire, quasiment pas. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de témoignages de ça. Et puis tout simplement, c'est à moins de tomber sur une bande organisée, sacrément entraînée, non, on n'attaque pas des gabariers.
Pour en revenir aux gabariers l'hiver, donc, en fait, ils étaient paysans, pêcheurs, ils étaient forestiers, il y avait un savoir-faire qui était
énorme. C'est une polyvalence, oui, bien sûr, c'est une polyvalence, parce qu'il faut envisager des années où le niveau d'eau n'est pas bon, tout simplement. Donc, alors, soit, effectivement, ils se mettent à faire plus de bois dans les coupes, en amont, ils remontent les vallées, ils constituent des stocks pour des années meilleures, si vous voulez. Ils sont aussi fabricants de bateaux, ne l'oubliez pas, parce que les bateaux sont perdus, ils sont détruits à l'arrivée. Donc on pouvait construire dans les chantiers de construction des gabarits par avance. En fait, tout était anticipation, mais tout était conditionné aux conditions de météorologiques, finalement.
Bien sûr, c'est la nature qui fait leur métier aussi.
Exactement, c'est-à-dire, il n'y a que depuis peu qu'on est aujourd'hui déconnecté de notre environnement global, alors qu'eux sont totalement connectés et forcément, ils anticipent les choses. C'est pour ça que, si vous voulez, sauf... Si les périodes de sécheresse, par exemple, duraient plusieurs années, là, ça pouvait devenir grave. Mais à cette époque-là, il n'y a pas véritablement... Il y a des cycles de hautes et de basses eaux, mais il n'y a pas véritablement de rupture nette
C'est important ce que vous dites, M. Chauvin. Ils anticipaient. Oui. Ce que l'on a perdu actuellement dans
notre... Oui, ils anticipent tout. Mais parce que c'est une nécessité vitale d'anticiper. Parce qu'ils sont quand même sur un fil. La vie est fragile, ils le savaient plus que nous. Et tout simplement, ils avaient cette capacité d'anticiper les choses. Alors, avec leurs moyens, évidemment, hein, leurs moyens. Mais oui, ils anticipaient. Et puis, accessoirement, ils pouvaient se reconvertir dans la vente de bois de chauffage, hein, dans la vente de bois de charpente, en maçon. Parce qu'il faut fabriquer les maisons, il faut fabriquer les chantiers, les taillés sont en pierre. Donc, en fait, la polyvalence, c'était leur meilleur atout.
Est-ce qu'on retrouve sur la région de Bordeaux, sur le Bordelais, du bois qui a servi éventuellement pour des charpentes dans des maisons sur le Bordeaux ou ailleurs? On ne sait pas.
Difficile à dire, parce qu'effectivement la traçabilité n'existe pas. Hein. On a des contrats simplement à la fin du 19e siècle. Et c'est intéressant ces contrats, si je puis en dire deux mots, parce qu'effectivement ils sont co-signés par les vignerons et M. Champfeuille à ce pantour. Donc en fait, quand le gabarit arrive à Bergerac ou à Libourne, fait sa livraison, il a un bon de livraison pour le voyage suivant. Donc ça aussi, c'est de l'anticipation.
Ils anticipaient déjà le voyage suivant.
Ils pouvaient l'anticiper parce que, tout simplement, le vigneron passait commande pour la fois suivante. Donc, en fait, ils avaient une certaine sécurité, malgré tout. Parce que tout simplement, ils avaient cette habitude d'avoir leur clientèle, leurs fournisseurs, enfin en l'occurrence les vignerons, et ils repartaient avec le contrat. Et donc le contrat prévoyait la livraison de tant de merins, de tant de carassonnes.
En début d'émission, on parlait de l'économie de cette région par rapport au reste de la Corrèze. C'était quand même important. Ça, c'était des gens, entre guillemets, pas plus riches, mais qui n'étaient pas peut-être de grande richesse, mais ils avaient une facilité de vie, peut-être qui était plus agréable que sur le plateau de Millevaches, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Évidemment, parce que tout simplement, je répète, la polyvalence est leur meilleur atout. Donc finalement, quand on a plusieurs arcs à son flèches à son arc, on s'en sort mieux que les autres qui n'en ont qu'une. Et puis ils sont peut-être effectivement beaucoup moins dépendants de l'agriculture que les autres. Ce qui ne les empêche pas d'avoir des primeurs.
Eh oui, parce qu'il y a bien un microclimat ici.
Microclimat plus favorable, oui. Oui, qui est de 3 semaines à peu près en avance sur Mauriac ou sur Neuvic. Donc, ils sont gagnants aussi sur ce plan-là, même si c'est des petits jardins. Et ils ont le poisson. Ils ont le poisson en abondance.
Moi, ce qui m'a étonné tout à l'heure, quand, en début d'émission, quand vous m'expliquiez que il y en a qui parlaient anglais, c'est extraordinaire ça. Des gens qui étaient encaissés, qui habitaient entre guillemets nulle part, pas nulle part, mais loin de tout. Et...
Oui, parce que finalement, cette Dordogne, je répète, c'est pas une frontière, c'est un trait d'union. Donc, trait d'union avec des régions plus loin. Imaginez quelqu'un qui fait 500 km à l'époque, c'est comme si vous en faites 5000 aujourd'hui.
Il faut le ramener au moyen de transport.
Exactement. Donc, ils ont aussi l'ouverture d'esprit qui va avec. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça leur permettait d'avoir aussi une plus grande. Et puis, ils remontaient pas à vide, ils remontaient de l'argent, mais ils pouvaient remonter des clous, ils pouvaient remonter du vin. Il ne faut pas imaginer simplement une sorte d'aller-retour sans but. Ils remontent avec aussi des choses, pas que de l'argent. Ils remontent avec le contrat pour l'année suivante. Ils remontent aussi avec ce qu'ils ont pu acheter, du vin, peut-être d'autres produits d'ailleurs. Mais c'est cette polyvalence qui va leur assurer un certain niveau de vie, oui.
Moi qui suis d'origine corrézienne, je vois bien toute la différence qu'il y a avec le reste du département. Il y avait un esprit derrière, au-delà de ce que ça représentait la difficulté, mais il y avait un esprit derrière, peut-être de voyage aussi, peut-être que n'avaient pas les autres corréziennes qui étaient fermées sur leur territoire, non?
Ben oui, ils ont une ouverture de par la découverte que leur permet ce voyage. Parce qu'en fait, chaque année, ils font 2 voyages. Donc ils ont la possibilité de rencontrer des gens différents à chaque port. Bon, ça peut être des mauvaises rencontres aussi, hein. Mais globalement, ils sont, oui, plus ouverts. Ils ont un espace de liberté beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand.
Est-ce que l'on sait que s'il y a des gens de la région, de ces gabariers, qui se sont installés après sur le Bordelais, qui ont rencontré soit peut-être une femme qui se sont mariés. Est-ce qu'on sait ça? Non, on ne sait pas.
Non, objectivement, non, on n'en sait rien. On peut l'imaginer, mais je pense qu'ils sont très attachés à leur port d'attache. Ils sont viscéralement attachés à leur vallée. Ça ne les empêche peut-être d'aller ailleurs, mais honnêtement, c'est pas une terre de migration. Ou alors c'est des migrations temporaires. Mais on ne part pas de la vallée. Si on part, c'est qu'on a besoin de partir. Ils n'ont pas besoin de partir. Ils ont juste besoin de voyager, eux. Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un chauffeur routier international aujourd'hui.
Ah oui, une comparaison, si on peut se permettre, bien sûr, bien sûr.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il est dans son camion, sa vie c'est son camion, mais il revient toujours faire un chargement et si c'est un bon professionnel, il gagne bien sa vie. C'est un petit peu la même chose.
Monsieur Charland, est-ce que vous pouvez nous conseiller un ouvrage qui nous parlerait de cette épopée des gabariers?
Oui, alors évidemment, la Haute Dordogne et les gabariers de Zeb Bombal, c'est la Bible, 1903. Parce qu'effectivement, cet historien argentacois a été le premier à véritablement faire une étude fouillée. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Mais il y a les cahiers de la batellerie, le numéro 36 aussi, à Conflans-Sainte-Honorine, qui est consacré au gabarit de Haute-Dordogne. Moi, j'avais rencontré le directeur de ce musée, d'ailleurs, et il avait fait un travail remarquable, assez fouillé et succinct, en une trentaine de pages, alors que le livre de Zeb Bombal est un peu plus technique.
Qui était de la région, non?
Bombal, il était d'Argentat.
D'accord.
D'Argentat, oui.
Donc, on va se faire une petite pause. On se retrouvera tout à l'heure avec M. Chavant, qui nous parlera des barrages aussi. Oui,
we'll be right back.
Monsieur Chavan, les collines avaient un autre aspect.
Ben, les collines, elles étaient totalement déboisées. Au début du XXe siècle, on est dans une zone absolument déboisée, ce qui posera le problème de la matière première. Mais ça posait un deuxième problème, c'est que par période de hautes eaux et de forte pluviométrie, ça accentuait les crues. La plus haute grande crue à Argentat a eu lieu en 1905, par exemple. Donc c'était lié au phénomène de déboisement massif. Donc il faut imaginer effectivement un débit de la Dordogne qui était considérablement beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Et donc une rivière qui était bien plus dangereuse qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui cette Dordogne est domestiquée par les barrages. Alors qu'à l'époque, les différences entre l'étiage et les plus hautes crues, par exemple l'Argentat, qui étaient régulièrement inondées et l'eau pouvait monter au niveau du premier étage. Ce qui est en soi l'équivalent d'un débit de 1000-1500 mètres cubes par seconde, ce que la Dordogne d'aujourd'hui n'atteint plus. Aujourd'hui, on atteint 700 au plus haut. À l'inverse, les étiages étaient plus marqués aussi. On avait du 10-12 mètres cubes à Argentat, ce qui est un filet d'eau.
Quel est votre point de vue sur le changement climatique, l'apport de ces barrages, de cette quantité d'eau qu'il y a là?
Alors, je pense que l'impact par rapport au changement climatique est quasiment nul, hein, mais c'est vrai que ça constitue des réserves naturelles d'eau conséquentes qui s'avéreront à l'avenir utiles pour les zones en aval. Évidemment, parce que c'est pour cela déjà qu'on pompe l'eau de la Dordogne pour alimenter la région de Brive via une station de pompage qui se trouve en amont de Beaulieu. Donc on a très bien compris que l'avenir de la Dordogne n'est pas que l'hydroélectricité, c'est aussi l'eau pour l'irrigation, pour les zones du sud-ouest, et c'est aussi l'alimentation en eau potable, et pas que pour le sud-ouest, c'est aussi pour la Corrèze.
Donc ce que vous dites, en fait, c'est quelque chose qu'on en revient encore tout à l'heure, où ils anticipaient dans leur travail, il nous faut anticiper l'avenir avec ces changements climatiques et ces masses d'eau, tout simplement.
Oui, c'est effectivement, on est au moment de la réflexion, en ce moment, à mon avis, hein, de la diversification des usages de l'eau. Et puis il y a le tourisme, qui est aussi un autre usage de l'eau. Sans ce barrage, il n'y aurait pas de gabarre, il n'y aurait pas de plan d'eau et de plage, de canoë à Argentat, il n'y aurait pas assez d'eau. Et puis, vous n'auriez pas les campings à Marcillac, à Neuvic, par exemple, au Gibanel, à Argentat, parce que tout simplement, ces masses d'eau constituent aussi une zone d'agrément, hein, pour le pédalo, pour la batellerie, pour le paddle. En fait, je pense que la polyvalence, pour en revenir au terme de tout à l'heure, la polyvalence des usages des barrages sera l'avenir. Et pas simplement la seule production d'hydroélectricité, même si on peut envisager aussi un doublement des capacités. C'est pas impossible, ça a été fait au barrage de l'Aigle en 1982. Il y a eu un doublement de la capacité du barrage de l'Aigle, donc un doublement de la production, c'est l'énergie verte, hein, c'est l'énergie renouvelable. Et je pense qu'on peut envisager, par exemple, de turbiner les débits d'étiage. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on envoie de l'eau, j'allais dire, sans la produire. Le barrage de Sablier envoie de l'eau sans la produire, alors qu'on pourrait imaginer des étiages qui seraient aussi turbinables, sur des quantités faibles. Mais l'avenir est peut-être aussi à ce genre d'idée.
Vous devez connaître ce qui s'est fait, déjà le tunnel qui a été creusé, ce qu'on appelle le projet Rodona. Où ça en est, monsieur Chavan?
À mon avis, c'est toujours dans les cartons. Le projet, à mon avis, ne va pas reprendre vie, parce que plus le temps passe, plus les investissements seront majeurs, parce que tout simplement, c'était peut-être au début de la construction qu'il fallait aller à l'investissement. C'était une bonne idée. Moi, personnellement, je n'y voyais que de l'intérêt, parce qu'effectivement, c'est des centrales de haute chute, et c'est l'avenir, parce qu'il s'agissait d'envoyer de l'eau d'une retenue sur le Chestan et de la faire remonter la nuit. Donc, en fait, il n'y avait pas de perte d'eau, il n'y avait pas de... Alors, ce que les gens craignaient, c'était un marnage, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on cible trop l'opposition à tout. Il faut faire des choix. À un moment donné, gouverner, c'est prévoir. Et ça veut dire qu'il faut faire des choix. Soit on fait le choix du renouvelable et on l'assume. Et on ne s'arrête pas parce que quatre personnes sont hostiles. C'est peut-être aussi des choix politiques.
Une autre question par rapport à ce barrage. Est-ce que le fait qu'il y ait cette masse d'eau a changé le microclimat de cette vallée?
Alors, moi, il n'y a pas d'études non plus faites tellement sur... Et puis, alors c'est plutôt des sensations, entre guillemets. Oui, je pense qu'il y a une... On le voit bien à la verdure de la végétation, il y a une masse d'humidité qui est forte. Et je pense qu'il y a aussi... Ça crée des couloirs pour les orages. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les masses orageuses passent plus facilement sur, autour de la vallée de la Dordogne qu'avant. Parce qu'il y a une évapotranspiration qui est très forte. Qui est très forte. Évidemment, ça a été des crèves-cœurs pour les quelques familles qui ont été déménagées. Mais c'est pas véritablement sur le Chastang que les problèmes se sont posés. Parce qu'on est dans les années 50, l'exode rural bat son plein. Et puis, on indemnise et on reloge dans des logements plus confortables. Et à cette époque-là, comme disait Altero Betti, la notion de progrès technologique et de vie l'emportait sur toute autre notion d'environnement, par exemple. C'était pour eux, c'était finalement on tourne une page, définitivement, on passe à autre chose, définitivement. Donc le départ a entraîné certainement des crèves-cœurs, mais à mon avis, beaucoup plus sur la région de Bord-les-Orgues, qui paradoxalement était plus peuplée, l'amont de Bord-les-Orgues, parce que c'était moins encaissé. C'est une vallée glaciaire, donc avec un fond plat, des usages plus nombreux, plus de personnes, que les vallées en creux encaissées du Chastang ou de l'Aigle, où finalement l'exode rural avait déjà fait le travail.
Ça a créé beaucoup plus sur Bord, je pense, ça a laissé des traces peut-être.
Oui, je pense que...
C'est pour ça, est-ce vrai que le barrage de Bord n'a jamais été inauguré à cause de ça?
Alors c'est une hypothèse, oui, effectivement, c'est ce qui a été dit.
Il y avait eu des manifestations?
Oui, il y avait une forme d'hostilité silencieuse, mais sourde, mais profonde, oui. Oui, c'est pour ça qu'effectivement... Et puis, n'oublions pas aussi que ça crée le souci de la fermeture d'une ligne de train qui reliait Mauriac à Paris et via Aigurande. Donc, effectivement, ça crée aussi ce problème-là. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est les notions pratico-pratiques qui l'emportent sur toute autre notion. Et si vous supprimez une ligne de train, qui est à l'époque la seule moyen de transport... c'était le problème. À Bord, ça a posé, à mon avis, et ça a posé beaucoup plus de problèmes qu'ici.
Est-ce vrai, M. Chavant, j'avais entendu ça dans les années 80-90, j'aimerais avoir la confirmation. Alors, je ne sais pas sur quel barrage ça s'est passé, mais qu'il y avait deux personnes, un homme et une femme, qui avaient refusé de partir, oui, et qui se sont retrouvées noyées.
Le barrage de l'Aigle, dans le lieu-dit de Noznak, effectivement.
Le barrage de l'Aigle.
Oui, en 47. C'est-à-dire qu'effectivement, le barrage avait été quasiment terminé et on avait laissé un débit réservé. Il y a eu un orage très violent qui a amené une quantité d'eau incroyable et qui n'a pas pu être évacuée. Et donc, effectivement, ces personnes sont mortes dans leur grenier, noyées. Accident stupide, s'il en est.
C'est resté dans les mémoires ici, non ?
Peu, mais ça a été quand même relayé puisque je l'ai appris moi-même, donc effectivement ça a existé.
Une dernière question, M. Chavant, que je me pose, c'est quand il y a eu la rupture du barrage dans le sud de la France,
mal passé,
est-ce que ça a eu un impact ici sur les populations, une forme de peur qui s'est inavouée ou... Est-ce qu'il s'en est parlé?
Oui, bien sûr, parce que c'est un accident majeur en 58, hein, c'est un accident très important. Alors, moi, étant à Argentat à l'époque, oui, tout le monde parlait de ça, et de la possibilité, parce que l'ingénieur aurait construit le barrage d'Otfage, le même ingénieur. La différence, c'est que c'était un barrage privé, et que le gardien, le 31 décembre, n'était pas présent pour ouvrir la vanne de vidange. Ce qui a créé le débordement et les fragilités de l'infrastructure.
Ah, vous nous apprenez quelque chose.
Oui, je pense que c'est la cause de l'accident et des 500 victimes, oui. 550 exactement à Fréjus et dans toute la vallée.
Et au début de la construction de ces barrages, est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'il se parlait dans les familles que peut-être qu'un jour il y avait un risque qu'ils cassent justement ces barrages? Est-ce qu'il y a eu une peur dès le départ?
Oui, alors c'était entretenu, effectivement, ça a été entretenu, mais... La vie est un risque et vivre au pied d'un barrage n'est pas plus risqué que de vivre à côté d'une centrale nucléaire ou d'une centrale thermique. Voilà, et puis aujourd'hui les systèmes d'alerte sont perfectionnés quand même. Je pense que hormis cet accident de mal passé, qui pour le coup porte bien son nom, parce qu'effectivement le barrage n'est pas en cause finalement, c'est plutôt une erreur humaine qui est à l'origine. Donc aujourd'hui je pense qu'ils ont une fiabilité et une sécurité telle que ce genre d'angoisse peut exister. Quand j'ai travaillé à Bord-les-Orgues, on me disait « t'as 30 secondes pour t'en aller ». Bon, ben, autrement dit, pas de temps pour partir. Mais une fois qu'on a dit ça, on sourit et puis on est habitué à ce géant qui est à côté. C'est un géant bienveillant. Oui. Tout dépend comment on envisage les choses.
Les paroles de sagesse, Monsieur Chavan. Cette émission va se terminer. Monsieur Chavan, je vous remercie vraiment. On a appris plein de choses. Le micro de Bram FM vous sera ouvert bientôt. On va traiter d'un sujet plus tard, en fin d'année, consacré aux soldats russes qui étaient enfermés à la Courtine. Vous verrez, c'est un moment de notre histoire, de notre région, qui pose les problèmes des relations entre pays aussi, au-delà des relations entre les hommes. Monsieur Chavan, merci encore.
Merci à vous et avec grand plaisir pour une prochaine émission.
Vous revenez nous voir quand vous voulez, merci.
Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudences évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais comme des frères, comme des sœurs. Et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi.